Maintenant, c'est au Théâtre des Marronniers que je vous emmène pour une pièce que je vous conseille tout particulièrement, chers auditeurs, Trace, jouée jusqu'au 3 décembre, créée et mise en scène par Grégoire Blanchon, avec des musiques de Benjamin Gibert. Alors, une pièce sur la mémoire, faite de successions de tableaux, d'atmosphères, dont la source est les rencontres faites pendant 2 semaines à l'hôpital de Pélussin, au service gériatrique, entre Grégoire Blanchon, Benjamin Gibert et Pierre Madvon, qui signent également un court-métrage, une exposition de peinture à découvrir en marge du spectacle, au Théâtre des Marronniers. Donc, leur rencontre avec des personnes âgées, dont certaines atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies touchant la mémoire, ainsi que leur famille et le personnel qui encadrait donc ces personnes âgées. Alors, vous l'avez compris, pour ma part, je vous conseille fortement d'aller d'ici le 3 décembre, il vous reste encore quelques jours, précipitez-vous, au Théâtre des Marronniers donc. Mais ici, vous le savez, vous l'avez bien vu la semaine dernière, où on m'a rapté mon rôle, je n'ai aucun pouvoir, je ne suis que l'animateur, et ceux qui font et défont les spectacles, oui, monsieur, rien que ça, je plaisante à peine, malgré son béret posé actuellement sur sa tête, eh bien ce sont les critiques comme Florent, mais aussi comme Irène ou Antonio, bref, la fine équipe d'En Spectateur, et je me tourne vers eux, justement. Qu'ont-ils pensé de Trace et est-ce qu'ils vous le conseillent, comme moi je me suis permis de le faire en introduction? Florent, toi d'abord, inspiré par ce spectacle?
Alors je dois dire que Trace est une pièce assez surprenante, pour un lieu également surprenant. Donc à l'occasion de ce qui a été pour moi la découverte d'un théâtre, je vous propose de faire un peu de tourisme audio non visuel. Donc prenez d'abord la rue des Marronniers d'un pas mesuré, une enfilade de bouchons, crêperies, restaurants alsaciens et surprise un restaurant de couscous perdu dans ce temple de la cuisine non halal où le porc est surreprésenté. Et là, entre deux restaurants, un couloir étroit et obscur qui nous emmène dans une arrière-cour improbable avec une petite salle. Comme je le disais au début, lieu improbable, pièce improbable. En effet, en lisant d'abord la plaquette de ce spectacle, on peut craindre une pièce de sensibilisation misérabiliste troisième agiste, genre les pauvres papy-mamie qui souffrent dans leur hôpital gériatrique, mais c'est tout à fait autre chose qui nous attend dans la petite salle du théâtre. On est dans cette petite salle assis presque sur les genoux de son voisin, car l'espace est assez réduit. Sur scène, il y a une dizaine de chaises, de quoi doubler le public de la salle si on installait des gens dessus, des chaises disparates que vous avez forcément vues chez vos grands-parents, votre vieille tante ou votre famille picarde. Il y en a pour tous les mauvais goûts des années 70, quand le visage de la modernité était souvent en sky orange ou vert. Ces vieilles chaises résument finalement, dans la nostalgie et le bazar qu'elles évoquent, le fond même de la pièce qui va gratter les recoins poussiéreux des vieux souvenirs des ancêtres finissants et de leurs proches. Le matériau est assez particulier. Ce sont d'abord des entretiens avec les patients d'un service de gériatrie, les soignants de ces patients, les proches de ces patients et peut-être les proches des soignants, je n'ai pas été jusque-là, qui font le matériau de base de cette création sur la mémoire. La mémoire qu'on garde ou la mémoire qu'on laisse ou la mémoire qu'on invente même. Ces entretiens sont utilisés de 3 manières ensuite, montage d'entretien en fond sonore, transformé en son d'ambiance, samplé et enfin certains textes sont joués par les acteurs. Donc une variété, un montage sonore qui est souvent accompagné d'un moment de danse, la personne perdue au milieu de ses chaises qui ont envahi la scène, dépareillée comme les souvenirs qui se bousculent. À mon avis, le seul inconvénient de ce spectacle est d'être trop court, ce qui est fort dommage car devant la forme étonnante, soit on met du temps à entrer dans la pièce, on n'a pas assez de temps justement pour l'apprécier, soit on est rentré tout de suite et dans ce cas, cette petite heure semble un peu courte, on aurait bien regardé ces paroles de vieux battre la breloque un peu plus. Pour nous consoler, il reste toujours le film peint, assez étrange, projeté après le film, où un artiste qui avait accompagné le metteur en scène dans les entretiens peint plusieurs couches d'histoire qui s'animent, représentant les différentes couches de mémoire se superposant, selon le metteur en scène, et qui font écho à ces toiles que l'on peut voir avant la pièce. Cette pièce surprenante met donc en valeur les 3 avantages de la maladie d'Alzheimer. On rencontre des nouvelles personnes tous les jours, on fait de beaux spectacles sur la mémoire, grand sujet de rêverie, et on rencontre de nouvelles personnes tous les jours.
Irène, est-ce que tu as eu le même avis que Florent? Dommage, c'était trop court, mais de très belles choses dans Trace.
Contrairement à Florent, je suis venue complètement désinformée à ce spectacle.
C'est
et
mal.
J'espère
c'est
que Thomas mal. Et Grégoire ne m'en tiendront pas rigueur. Mais à mon avis, nul besoin d'un paratexte pédagogique pour comprendre qu'il s'agit de mémoire et des traces qui subsistent dans notre discours et surtout nos gestes. Entre le ressassement de cet homme, le premier homme qui arrive sur scène, qui semble toujours prendre le bus, et le discours lâche et troué qui rassemble difficilement les miettes de Madeleine au fond de la tasse de thé, on assiste à une déclinaison des scènes de la mémoire. Le texte est très beau et a un véritable pouvoir évocatoire. je sais maintenant, après m'être renseignée, que ce ne sont pas seulement les paroles des malades, mais ce sont aussi les mots des acteurs qui sont venus improviser. Et il y a un véritable travail sur le texte, d'incarnation du texte par les acteurs. Et le tout est orchestré par Grégoire Blanchon, pour le texte en tout cas, de manière assez... De manière très positive. Mais je regrette vraiment le travail sur le corps, justement, puisque, comme le disait Grégoire Blanchon, il s'agit de réinvestir des habitudes gestuelles au travers de la chaise, au travers de la danse, mais elles semblent... il me semble que ce sont quand même des lieux communs un peu du théâtre contemporain, de ce travail systématique sur la danse, qui bien sûr avait son sens ici, mais vraiment... Ça m'a gênée que ce spectacle soit complètement lacunaire, parce que ce que disait ce que j'attendais, moi, enfin ce que j'aurais pu attendre de cette pièce qui parle de malades d'Alzheimer, c'est comme le dit Grégoire Blanchon, de remettre de la vie dans les années, non pas des années dans la vie, et se remettre du sens à cela. Or, il s'agit davantage d'une déconstruction du sens progressive dans le spectacle, le rapport déréglé aux objets, la chorégraphie gratuitement esthétique, et pourtant c'est un spectacle qui tend à la totalisation. Entre danse, théâtre, musique, peinture et cinéma, les artistes ont tenté de nous présenter un spectacle total, et pourtant sur le manque, sur le trou. Autant dire que l'on construit une cathédrale sur un vide, un bâtiment toujours branlant en passe de tomber en ruine. Est-ce vraiment le sentiment profond, et dans ce cas-là, véritablement pessimiste, qui habite ces centres médicaux, le sentiment que la société se concentre sur ce qui est toujours en passe de la détruire, la fin de vie, l'arrêt de la mémoire, la fin de l'histoire, une mort toujours imminente. Dans ce cas, et c'est le sentiment qui a émergé en moi, je ne l'ai pas vécu comme une représentation, une construction de sens, une manière de dire ce qui est indicible, mais davantage comme le germe d'un théâtre décadentiste, si on réutilise un terme littéraire, mais pas décadent. Je tiens à dire qu'il y a une véritable différence. Et ce théâtre épuise le sens, au sens où il y a une... Où véritablement on travaille sur la lacune, le trou, le manque, mais aussi parce qu'il réutilise, à mon avis, comme je l'ai dit auparavant, des processus un peu à la mode, des tics théâtraux, de la danse notamment, et du chant sur scène qui perdent leur sens, enfin qui perdent leur crédibilité. Mais donc je reste assez partagée donc du texte, du matériau textuel à la représentation, pour reprendre une opposition sommaire, mais que je crois toujours opérante. Le spectacle manque quelque chose et ne confine à rien du tout, d'une certaine manière. Je ne serais pas aussi sévère pour le court-métrage de Pierre Mathevon, qui formellement est intéressant, assez nouveau, qui fait travailler quand même entre le cinéma et la peinture, et pour le coup raconte véritablement une histoire, et lui réussissant en faisant référence pourtant à des scènes de lieux communs du cinéma, notamment l'entrée dans la gare de la Ciotat, arrive à transmettre quelque chose d'une unité, d'un parcours. Mais c'était intéressant aussi de mettre ce court-métrage à la fin, puisqu'il venait vraiment clôturer en donnant un sens véritablement, en donnant une vie, puisqu'on voit ces images s'animer de manière assez rigoureuse et assez organisée, au spectacle en général. Voilà.
Juste avant de donner la parole à Antonio, je pense que tu as vraiment saisi le sens vraiment de cette pièce. Quand tu parles de cathédrale au-dessus du vide, l'image est très belle d'ailleurs. Mais là, tu en tires ensuite une conclusion assez négative, assez pessimiste. Tu parles de décadentisme. Je crois que c'est assez symptomatique de la perception qu'on pouvait avoir de cette pièce. C'est-à-dire que soit on réagissait comme toi et on disait « mais mince, cette pièce est très pessimiste ». Et effectivement, ça met en exergue la futilité même de l'art et sa vacuité à essayer de donner de la beauté ou un sens à notre société, à notre vie et surtout à la fin de vie, à la perte de mémoire. En revanche, quand on se place de l'autre côté dans le cas des familles ou dans le cas des patients, je pense qu'on voit l'autre, on ne voit pas le vide, on voit la cathédrale qui émerge tout de même. Et la réussite de ce spectacle, c'est justement d'arriver à faire émerger de la beauté, certes éphémère et vacillante, dans un univers très pessimiste. Et c'est une bulle d'optimisme, qui n'est à mon avis pas attiré du côté du décadentisme, mais qui montre bien que ce spectacle, déjà, il t'a touché, donc je pense que ça, c'est déjà un bon point, mais surtout qu'il il peut être perçu de façon très diverse. Soit on trouve que c'est un spectacle très tendre, très optimiste, soit alors on le trouve très négatif parce qu'on se passe d'un bout ou de l'autre du spectre, si on a été touché ou pas par cette question de la mémoire ou de la fin de vie. Et je te laisse, Antonio, nous dire si tu as vu cette cathédrale au-dessus du vide ou pas du tout.
Alors, je voudrais souligner d'abord que Trace constitue une soirée un peu atypique au théâtre, puisqu'effectivement, on n'a pas à faire simplement un spectacle, mais aussi une exposition de peinture, la rencontre et le film après, comme on vient de le dire plusieurs fois. Soirée atypique, donc, qui exige une disposition particulière de la part du spectateur, que j'ai un petit peu eu du mal à trouver avant de voir que le spectacle présentait, en tout cas pour moi, un grand intérêt quand j'ai vu donc cette cathédrale au-dessus du vide, puisque c'est la métaphore qui va courir pendant cette émission.
C'est l'expression à la mode, oui.
Et que cette cathédrale au-dessus du vide m'a plu et m'a raconté des choses. J'ai été très sensible aussi à la modalité de réalisation de ce spectacle, qui me semble en accord parfait avec son contenu, avec ce qui est traité dans Trace. Bon, donc c'est-à-dire les questions de mémoire, de perte de la mémoire, etc. Comme si Trace était bâti de telle manière qu'on peut se souvenir de certaines séquences ou d'images marquantes. On vient d'évoquer une danse singulière avec des chaises. Je pense aussi à une séquence où chacun des acteurs évoque des souvenirs ou des situations marquantes lors d'événements qu'on considère déjà comme... comme historique.
Où est-ce que vous étiez le 11 septembre 2001? Exactement. Où est-ce que vous étiez lors de la mort de Mitterrand? Moi, personnellement, j'étais pas né, mais par contre, le 11 septembre, je sais où j'étais.
Mais même si on peut se souvenir donc de ces passages-là, la chronologie du spectacle me semble impossible à restituer. Thomas vient de mentir sur son âge. Il était né quand Mitterrand est mort. Enfin, bref.
J'étais né, oui.
Chronologie impossible à restituer, je disais.
Bah oui, chronologie impossible à restituer.
On a affaire à un travail minutieux et complet autour de ça. La preuve, c'est que ça peut perdre certains spectateurs qui en oublient leur date de naissance. Ce qui m'a plu beaucoup, tout d'abord, c'est la dimension très, très intimiste de ce spectacle. Intimiste à un tel point que Florent se retrouvait assis sur les genoux de son voisin. Intimiste à tous les niveaux, donc la salle est très petite, on est très près des acteurs qui nous font face, qui s'adressent à nous en première personne et qui reviennent à la fin du spectacle pour dialoguer avec l'assistance. Aussi, travail minutieux dans l'oscillation entre l'attention qu'on porte à la personne des acteurs et aux personnes qui souffrent d'Alzheimer ou aux malades de cet hôpital dont ils prennent en charge les paroles. Ce qui était assez subtilement fait pendant le spectacle, qui peut semer le trouble dans le regard du spectateur quand il ne sait pas très bien à qui il a affaire. Je pense par exemple au travail qui a été fait sur leurs vêtements, puisqu'on a à peine parlé de costumes, ils sont en tenue de ville, mais en même temps, ils étaient tous dans des tons gris ou noirs. Également, pour donner un autre exemple, la musique, ou un travail assez subtil sur les sons, avec plusieurs échos, les voix des témoignages, la reprise de morceaux légèrement modifiés, si bien qu'on se demande assez souvent si on ne les a pas déjà entendus, de telle manière qu'on crée par ce travail sur le son et la musique une forme d'absence qui est ici mise en avant de manière très très forte. Donc je serais d'accord pour ce qui a été dit tout à l'heure, ça paraît un peu court, le temps de laisser tout ça s'installer et infuser dans le spectateur, c'est court, le temps d'en prendre conscience pour en goûter pleinement, ce qui peut laisser un peu froid le spectateur, mais qui est probablement voulu dans cette manière de conduire une action souterraine, relativement complexe, et dont on subit les effets sans en avoir la cause.
Donc finalement, vous avez été marqués tous les deux, Antonio et Florent, par quelque chose qui a un petit peu embêté Irène. Est-ce que vous avez trouvé que ça faisait trop cliché de théâtre contemporain, et on va encore me huer pour avoir dit que c'est du théâtre contemporain? Mais j'assure.
C'est vrai que danser au milieu de chaises depuis Café Muller pour souligner une sorte d'absence d'autant plus manifeste que ces chaises sont vides peut paraître cliché. Mais justement ici, on a affaire à quelque chose de... différent, ou en tout cas qui ne vise pas la même chose qui n'est pas dans la citation en tout cas de.
Et parce que justement, là, ça ne sert pas à montrer que les chaises sont vides.
Non. Ça montre plus, enfin, comme ce qui a été dit le soir où nous étions là à la rencontre après, que la personne qui a affaire à ces chaises en a perdu l'usage, qu'elle est devant un objet complètement étranger, comme s'il venait d'une autre planète.
C'est pour ça qu'elle le soulève
dans tous les sens.
Qu'elle danse avec elle.
Là, d'ailleurs, tu nous demandes quelle scène ou quelle séquence nous a le plus marqué. Alors, on dit celle-là. Presque instinctivement, immédiatement. Peut-être parce que c'est la rencontre parfaite entre une scène, une séquence qu'on peut vraiment dater avec un début et une fin, mm-hmm. et la création ou la tentative de provoquer une certaine sensation, des sentiments chez le spectateur, qu'on a à d'autres moments, mais de manière beaucoup plus brève et fugitive, puisque j'ai des images qui me viennent en tête quand la comédienne monte sur les chaises, mais à un autre moment, beaucoup plus tard dans le spectacle, où des phrases, des bribes de souvenirs, cette femme avec les sachets de sucre, où on peut voir le Mont-Saint-Michel dessus, par exemple. Mais des morceaux de texte ou des actions très courtes qui ne donnaient pas lieu à une scène, ce qui était pourtant le cas. Et c'est là que ça devenait très intéressant dans cette chorégraphie avec la chaise.
Comme si tous les fils de la pièce se nouaient en cet instant.
Voilà.
Pour moi, il y avait des éléments composites. Est-ce que c'est parce que c'est un jeune metteur en scène qui a du mal à se défaire d'un formalisme scolaire, ou est-ce qu'il est trop impressionné par des figures qu'il admire.
Formalisme scolaire, t'y vas fort quand même.
C'était formel.
Il y avait beaucoup d'exercices de style, il me semble. Parce que, notamment dans le placement des acteurs, c'est le travail sur la chorégraphie. Mais c'est vrai que c'est un metteur en scène qui est quand même très jeune. Donc il faut aussi prendre en compte quelles sont ses influences, ses inspirations. Et moi, elles étaient, pour moi, encore assez... Elles se voyaient encore, on va dire. Elles n'étaient pas complètement intégrées dans une œuvre... d'auteur.
Alors on va croire qu'on se concentre uniquement sur la scène de la chaise, mais pour revenir là-dessus, sur cet aspect formel que tu décris, moi je pense que c'est à cause de cette distinction que je notais tout à l'heure, où toi forcément tu analyses ça en termes d'influence artistique, et je ne crois pas que ça soit vraiment ça qu'on voit, que tout le monde voit en tout cas, parce que je pense que vraiment c'est une volonté de prendre un élément qui existe, c'est-à-dire la perte de signification d'un objet du quotidien, que ce soit une chaise, mais ça aurait pu être un téléphone, par exemple, ou une fourchette, et d'essayer de faire de cette perte, qui est quand même dramatique, perdre la fonction de s'asseoir sur une chaise. Qu'est-ce qu'il y a de pire à imaginer ? C'est quand même des repères basiques que l'on perd. Et de faire de cela quelque chose d'artistique. Alors oui, ça passe par un exercice de style. Mais la visée n'est pas de faire un exercice de style. C'est de donner une autre signification, une signification plus tendre, plus jolie, à une réalité qui est quand même assez sombre pour celui qui la vit, ou pour, je sais pas, l'enfant qui voit son père tourner autour d'une chaise ou la prendre et la balancer parce qu'il ne sait plus ce que c'est.
Ou pas parce que ça donne lieu à quelque chose de créatif sous le regard du spectateur.
Et ben on va terminer là-dessus et vous ferez votre propre idée sur le côté formel ou créatif de Trace que je vous conseille moi particulièrement. Irène peut-être un peu moins, mais Antonio et Florent en tout cas plutôt. En tout cas, faites-vous votre idée et vous pouvez vous la faire jusqu'au 3 décembre au Théâtre des Marronniers. Fin du parcours artistique, donc, fin de notre jeu de pistes spectaculaire dans le Grand Lyon. Merci à ma petite bande, Irène, Florent et Antonio. Merci à Antoine, à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Et rendez-vous la semaine prochaine pour le 13e numéro d'En Spectateur, au cours duquel je troquerai mes habits habituels pour ceux de Père Noël, pour vous donner des idées et des envies de sorties théâtrales pour ce mois de décembre et les fêtes à venir. Je vous présenterai avec invité et... interview à la clé, la pièce Chambre avec vue, jouée au Théâtre des Marronniers, l'opéra Le Messie d'Handel, donné lui à l'Opéra de Lyon, les ombres de Peter Pan, qui illumineront, je l'espère, le Théâtre Cantor mi-décembre, et enfin les femmes savantes qui s'installeront au Théâtre de Vénissieux. Donc une émission de présentation pour vous donner des envies, évidemment des spectacles que nous irons ensuite voir pour vous et que nous commenterons. À la semaine prochaine donc, et d'ici là, surtout, n'oubliez pas d'aller au théâtre, au cinéma ou à l'opéra. Bref, n'oubliez pas de vivre en spectateur.